RFI.
Édition spéciale.
Arnaud Pontus, Frédéric Rivière.
Première question au camp du vainqueur, Laura Slimani. Benoît Hamon a expliqué hier soir qu'il devait s'employer au rassemblement des socialistes, dès aujourd'hui et au-delà d'ailleurs, mais enfin dans un premier temps des socialistes. Première question toute simple, comment va-t-il s'y prendre ? Parce qu'on voit bien que ça n'est pas si simple.
Comme pour tout rassemblement, il va falloir qu'il passe des coups de fil, qu'il rencontre un certain nombre de personnes. Je sais qu'il rencontre le Premier ministre, je crois, cet après-midi. Donc, ça va permettre de mettre les choses au clair et puis de voir quels peuvent être les points de convergence qui permettent de faire une campagne unie autour d'un certain nombre de choses qui sont partagées, même s'il y a eu effectivement un vote assez clair hier qui permet de mettre au cœur de cette campagne la question des mutations que traverse la question du travail, la question démocratique et la question de la dégradation de l'environnement.
Un vote assez clair, ça veut dire pas trop de modulation du programme ?
Ça n'aurait pas de sens, si vous voulez, au vu du vote qui s'est exprimé. Mais c'est
plus de 58%.
Pour tout le primaire. Enfin, voilà. Après, il faut bien sûr être capable d'écouter et effectivement de prendre en compte ce qui pourra être dit dans les jours qui viennent. Et je pense notamment que, alors que la primaire est toujours un exercice dans lequel les différences ressortent, puisque le but c'est quand même de faire des choix en fonction de distinctions. Là, il est aussi temps de voir ce qui rassemble. Je pense notamment à la question de l'éducation. Je pense à la question des droits des femmes. Je pense à la question de la transition écologique qui finalement, sur la fin de la campagne, a fait plutôt consensus entre les candidats et c'est une bonne chose.
Et pourtant, Alexandre Leroy, donc vous souteniez Manuel Valls,
c'est ça.
Le maire d'Evry, proche lui-même de Manuel Valls, disait hier soir, s'il s'agit de continuer à dénigrer le bilan du quinquennat, qu'on ne compte pas sur moi, s'il s'agit de s'aligner sur son programme de la primaire, ça va être très difficile. Les valsistes sont sur cette ligne, il faut que Benoît Hamon amende son projet pour que vous le suiviez.
Ça, d'une part, c'est les propos du maire d'Evry. Moi, je pense que l'histoire de la gauche, c'est le débat. Ça a toujours été le débat, comme Laura a pu le dire à l'instant. Et aujourd'hui, la responsabilité de rassembler la famille socialiste et la gauche, elle incombe effectivement à Benoît Hamon, qui devra réussir à le faire dans l'intérêt des Français et des Françaises. Moi, j'ai en tête les mots de Manuel Valls d'hier, qui disait « Attention, la menace de la droite libérale, la menace de l'extrême droite, elle est réelle. Et face à ces menaces, il faut effectivement que le peuple de gauche arrive rassembler. » Donc aujourd'hui, il n'y a pas, absolument pas d'ailleurs, de mot d'ordre, d'hémorragie ou autre. Je pense que Manuel Valls a été très clair hier sur à la fois sa loyauté. Il faut voir que l'histoire de Manuel Valls, elle se confond avec l'histoire du Parti Socialiste et aussi avec un sens aigu des responsabilités. Donc aujourd'hui, voilà, Manuel Valls, comme les gens qui l'ont soutenu et son équipe a pris ses responsabilités, moi j'ai été assez ému et tout à fait, je me suis totalement retrouvé dans ces mots d'hier. Et maintenant, effectivement, il va falloir construire le rassemblement et ça revient au vainqueur de cette primaire.
Alexandre Leroy, c'est à Benoît Hamon de rassembler, mais est-ce que Benoît Hamon est bien votre candidat ce matin ?
Eh bien écoutez, moi je me suis engagé, vous me posez la question, moi je me suis engagé dans le comité de soutien à Manuel Valls, lui-même engagé dans les primaires.
On l'a bien compris.
La condition de la primaire était d'en accepter, de prendre acte des résultats.
Donc, Benoît Hamon est votre candidat.
Aujourd'hui, Benoît Hamon est le candidat de toutes les personnes qui ont participé à ces primaires. Il y aura une convention à investiture, il le sera à la suite, le candidat du Parti Socialiste et de la Belle Alliance Populaire.
Bernard Debré, bonjour.
Semble sceptique.
C'est un bon adversaire, Benoît Hamon ?
Écoutez, c'est un adversaire et je le respecte parce que j'aime bien Benoît Hamon, j'ai discuté avec lui assez souvent. C'est un homme gentil, c'est un homme poli, on partage absolument pas.
Mais autour d'un verre à l'Assemblée, mais enfin.
Non, mais c'est ça, c'est ce que je dis. Mais on partage absolument pas les idéaux, les valeurs de... Pourquoi non. Encore heureux
je pense que c'est quand.
Laura Slimani,
c'est normal qu'on ne partage pas un certain nombre de choses, sinon on ne serait pas dans les camps adverses dans cette élection.
Encore heureux est peut-être un peu mal finisé, encore heureux. Encore heureux. Vous voyez, alors là, ça, Benoît Hamon ne l'aurait jamais dit. Il respecte les uns et les autres, comme je respecte Monsieur Valls, Monsieur Hamon, je respecte les uns et les autres. Alors effectivement, c'est pas du tout nos valeurs. Ce sont des valeurs qui sont des valeurs très très à gauche.
Est-ce que c'est plus facile pour vous de vous retrouver face à un candidat socialiste franchement de gauche ? Est-ce que c'est plus facile avec un mot qu'avec une phrase?
Mais je sais, est-ce que franchement, c'est ça, la vous question, attendez Frédéric. que je réponde à cette question? Oui. Pour l'instant, on considère que M. Benoît Hamon sera quatrième ou cinquième.
Bah, on disait, oui, bah, voilà. Donc, c'est quatrième maintenant. On disait cinquième il y a quelques jours.
Oui, bah, c'est quatrième, je crois qu'il y a
peut-être. Donc finalement, cinquième. Pas très important.
Si, c'est important pour le Parti Socialiste, pour essayer de faire en sorte que le Parti Socialiste survive. Pas pour nous.
Non.
Non.
Donc l'adversaire de François Fillon, ça n'est en aucun cas Benoît Hamon. Il va se concentrer sur d'autres personnes.
Oui.
Et sur qui?
Macron.
Macron, bon, bah, première cible. Pas Marine Le Pen qui est donnée en tête dans toutes les intentions de votre sondage.
Mais de toute façon, nous sommes tous contre Marine Le Pen. Que ce soit les uns ou les autres, à droite ou à gauche, nous sommes contre Marine Le Pen. Et nous ne voulons pas de Marine Le Pen. C'est clair. Donc, voilà, notre adversaire, on le sait bien, ça sera Emmanuel Macron. Oui. Eh bien, ce sera un combat à la loyale.
Laurent Slimani, Benoît Hamon, dès hier soir, a dit qu'il voulait aller discuter avec Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Mais pour leur dire quoi, au fond? De se ranger derrière lui? Puisque lui, il a dit, il y a quelques jours, il y aura un bulletin Benoît Hamon en avril prochain à l'élection présidentielle. Ce qui exclut donc que lui se range derrière qui que ce soit. Donc il demande aux autres de le faire, c'est ça?
Je pense qu'il c'est un appel à la responsabilité des uns et des autres. Et voilà, celle de Yannick Jadot, qui a pour le coup bénéficié quand même d'une légitimité peut-être un peu moindre au vu du nombre d'électeurs, mais bon, voilà, qui s'est en tout cas dans soumis à un processus de désignation, ce qui n'est absolument pas le cas de Jean-Luc Mélenchon, qui est plutôt dans une autoproclamation dont je suis pas certaine qu'elle aujourd'hui corresponde à la volonté de renouvellement démocratique
donc,
dans la société
vous
française.
Vous contestez donc, la légitimité des deux, en fait.
Je pense qu'en tout cas, à mon avis, l'appel de Benoît Hamon est un appel à la responsabilité de chacun dans une situation dans laquelle il n'y a aucune chance pour la gauche d'être qualifiée au second tour de l'élection présidentielle si elle ne s'unit pas. Voilà.
Un appel à la responsabilité, en clair, c'est un appel au désistement. C'est laissez-moi la place.
C'est un appel à la discussion parce qu'il y a un certain nombre de propositions communes aujourd'hui, vous l'avez vu, dans les programmes de ces trois candidats. Oui. Et que donc, à partir du moment où aujourd'hui Benoît Hamon est le seul à jouir d'une légitimité démocratique importante avec a priori plus d'un million de votants, j'ai pas les chiffres exacts, mais bon, si on est à 2 millions de participation et qui est à 60%, mathématiquement, on sera voilà. Donc ça, il me semble que c'est une candidature qui aujourd'hui est la plus légitime et plus à même donc de rassembler effectivement la gauche.
Vous avez simplement oublié parmi les 2 millions de votants qu'il y a eu beaucoup d'abstentionnistes et beaucoup
d'audience. Mais je ne suis pas sûre qu'aille jusqu'à... Enfin, si vous voulez, 60%, ça fait quand même... À mon avis,
je n'ai pas
les résultats exacts.
Je pense qu'on est au-dessus d'un million. Je suis ravi pour Benoît Hamon. Voilà, c'est très bien. Il sera quatrième et je vois mal effectivement Monsieur Benoît Hamon récupérer le soutien enthousiaste.
Vous n'y croyez pas à ça?
Ah, pas du tout.
Le désistement.
Pas du tout.
Vous pensez que la gauche ira éclater, totalement éclater?
Mais bien entendu, c'est le faire part du décès de la gauche, du Parti Socialiste tel qu'il est.
Alexandre Leroy, vous êtes sur cette ligne aussi, hors primaire, point de légitimité?
Mais écoutez, moi je...
Personnellement, ça, c'est quand même une nouveauté dans le paysage politique. Aujourd'hui, tout le monde dit pas de primaire, pas de légitimité. Mais enfin, autrefois, les candidats se présentaient comme ça et on les considérait comme légitimes.
Autrefois, il y avait des partis politiques extrêmement forts.
Alexandre Leroy.
Mais moi, d'une part, je pense qu'on peut très difficilement, voire on ne peut pas avoir raison tout seul. Je goûte peu au côté providentiel. Qui viendrait se placer au-dessus d'une primaire qui, ça a été rappelé, a quand même réuni 2 millions d'électeurs avec une belle hausse de la participation à ce second tour. Donc, effectivement, j'y crois peu. Je crois peu en le peu de légitimité que ça confère. Et j'espère que chacun sera en mesure de prendre sa responsabilité face au danger qu'on énonçait tout à l'heure de cette extrême droite et puis d'un projet porté par François Fillon dans lequel, personnellement, je ne me retrouve pas. Et puis, je pense que les électeurs, les 2 millions d'électeurs et le peuple de gauche ne se retrouvent pas non plus.
Mais avant de rassembler la gauche, je voulais dire, le Parti Socialiste est à rassembler aussi. Vous avez dit vous-même que Benoît Hamon était votre candidat ce matin. Mais on a entendu dès hier soir des valsistes dire non, ce sera Macron.
Mais écoutez,
il y a une tentation Macron très nette.
Mais probablement, chacun est responsable de sa parole. Et vous savez, moi, je pense que c'est marginal. Je pense que c'est marginal.
Vous pensez vraiment que c'est marginal?
Je pense que c'est marginal. Les personnes qui se sont engagées à soutenir Manuel Valls l'ont fait pour son programme, l'ont fait pour sa stature d'homme d'État, mais aussi pour les valeurs qui portent. Et j'en parlais tout à l'heure. Une de ces valeurs-là, c'est la loyauté à sa famille politique. Manuel Valls, il a toujours été loyal.
Mais est-ce qu'il n'y a pas plus de convergence programmatique, disons, entre Emmanuel Macron et Manuel Valls qu'entre
vous connaissez le programme d'Emmanuel Macron?
Macron. J'étais sûr que vous alliez me dire.
Je ne connais pas le programme d'Emmanuel Macron, donc je serais bien en peine de répondre à cette question.
Moi, je trouve que quand on parle de la... du franc-parler, de la sérénité de Manuel Valls, c'est quand même lui qui a assassiné François Hollande. C'était quand même son premier ministre, et je me souviens d'un grand article dans le JDD en demandant simplement à François Hollande de partir, en disant qu'il
après
était...
Après la parution du livre,
oui, et qu'il était prêt à prendre sa place. C'est un peu pour ça qu'il a été sanctionné. J'aurais été de gauche... de courant que ce soit, j'aurais trouvé ça quand même extraordinaire. Vous me direz, l'autre Brutus, c'est Macron. Donc,
décidément.
Écoutez, c'est un peu bizarre de voir cette bataille permanente, ce déchirement permanent à gauche. Nous l'avons connu aussi, avec Balladur, avec Chirac, etc. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on arrive dans une période où les partis politiques sont en train de s'effacer. C'est vrai, quand vous faites un papier par Internet ou ce que vous voulez comme nouveau média, vous avez 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes. Quand vous regardez le parti républicain ou le parti des républicains, vous avez quoi, 180 000 personnes. Le parti socialiste, vous en avez 80 000 ou 100 000. Nous sommes en train d'assister à une nouvelle ère politique. Et c'est pour ça que les primaires, pour moi, sont importantes. Et je comprends parfaitement que vos primaires soient importantes, quel que soit le nombre de votants. Cela dit, la gauche est quand même extrêmement éclatée, parce qu'il y a Mélenchon, il y a maintenant Hamon, il y a Macron, ça fait beaucoup.
Laura Slimani, Philippe Doucet, qui est un soutien ardent de Manuel Valls, disait hier soir, Benoît Hamon ne doit pas commettre l'erreur de François Fillon, il doit tendre rapidement la main aux partisans de Manuel Valls. Est-ce que vous considérez en effet qu'il y a urgence et quels gestes, quelles initiatives doit-il prendre très vite pour rassurer le camp du perdant?
Mais il l'a fait dès hier soir. Vous avez vu aussi que le discours du Premier ministre a été très clair.
Oui,
mais bon, vous avez les porte-paroles, etc., et qui font leur travail et qui envoient des messages, et c'est leur rôle. Vous avez aussi Manuel Valls qui a dit quand même très clairement qu'il se rangeait derrière Benoît Hamon en toute loyauté. Voilà, avec, bien sûr, il a perdu cette élection, donc voilà, il va aussi, à un moment donné, peut-être se mettre un peu en retrait. Enfin, je sais pas, mais moi, ça me choque pas. Par contre, je pense que c'est extrêmement important qu'il ait annoncé très vite, sa loyauté à sa famille politique. Ensuite, je vous l'ai déjà dit, il faudra que les personnalités autour de Benoît Hamon s'élargissent. Mais
revenu
ça
universel,
paraît naturel,
par exemple,
et c'est normal.
On n'y touche pas, ça reste
la colonne vertébrale. Je pense que ça a une place beaucoup trop importante dans le programme de Benoît Hamon et ce qu'il a porté finalement à cette victoire pour ensuite dire, finalement, on ne le fait pas. Mais par contre, moi, je pense que là où on peut se retrouver et là où ça sera facile de se retrouver, c'est que vous aviez deux candidats qui étaient tous pour le fait que, de toute façon, on soutienne beaucoup plus les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle, puisque Benoît Hamon a bien indiqué que la première étape du revenu universel d'existence, c'est son ouverture à tous les 18-25 ans, et que Manuel Valls était favorable à l'ouverture d'un revenu décent aux 18-25 ans. Donc je pense que là-dessus, par exemple, finalement, ce qu'on nous annonçait être le sujet de discorde majeur va, à mon avis, permettre de rassembler, et je sais que Alexandre Leroy, ancien responsable étudiant, il sera sensible.
Comment voyez-vous, Alexandre Leroy, l'avenir de Manuel Valls? Quel rôle vous lui voyez dans les prochains mois?
Dans les prochains mois et dans un futur proche comme à long terme. D'ailleurs, moi, je suis persuadé que Manuel Valls, il reste à la fois utile, absolument, à la gauche et à la France, et puis il a la volonté ferme de continuer le combat politique qu'il a toujours mené, le combat politique pour la gauche, pour les valeurs républicaines. Il a ces choses-là chevillées au corps, quand vous l'écoutez parler.
C'est rendez-vous en 2022 maintenant, c'est ça?
Mais je ne sais pas si c'est rendez-vous en 2022.
Qu'est-ce qui n'a pas marché alors? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à convaincre une majorité d'électeurs?
Alors écoutez, moi je ne suis pas prof de sciences politiques ou autre. Le
vous
fait
avez bien
est,
un sentiment. Est-ce que vous avez senti de l'intérieur une campagne qui avait des problèmes à trouver une adhésion? Est-ce que...
Mais écoutez, moi je pense qu'il y avait plusieurs choses. Manuel Valls, et ça a fait la fierté des personnes qui l'ont soutenu, qui sont allées voter pour lui, a défendu pied à pied le bilan de son quinquennat en expliquant que non, c'était pas un quinquennat pour rien, c'était pas un quinquennat gâché. Il y avait des mesures qui sont emblématiques, qui sont fortes. On parlait des jeunes, il y a eu beaucoup de mesures pour les jeunes, il y a eu la COP21, on pourrait en faire la liste.
Donc et il est apparu comme le sortant.
Probablement, mais avec quand même la conviction d'aller au bout de cette défense du quinquennat. Et je pense que c'est important parce que, quoi qu'il en soit, le peuple de gauche ne pourra pas relever la tête si on ne valorise pas ce qui, pendant ces 5 ans, a fait avancer à la fois l'égalité, a fait avancer la gauche.
C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en réalité, Manuel Valls a été sanctionné parce qu'il était le sortant et que c'est en réalité la politique de François Hollande qui a été sanctionnée.
Il a été sanctionné à la place de François Hollande.
Exactement. Et c'est pour ça que c'est très intéressant qu'un un certain nombre de valsistes, en tel qu'on puisse utiliser ce terme, vont aller vers Emmanuel Macron, qui va enfin se dévoiler. C'est vrai qu'il n'a pas pour l'instant de programme. Mais il va avoir le soutien massif des socialistes, députés socialistes, des caciques socialistes. Et à ce moment-là, on va le voir apparaître comme lui aussi, ce qu'il est d'ailleurs. Le successeur, l'héritier de François Hollande.
Un petit mot, Bernard Debré, c'est difficile de ne pas en parler, de ce qu'on appelle le Penelope Gate ou l'affaire Penelope, la compagne de François Fillon. Ça a déjà un effet très lourd sur sa popularité. Ça ne vous inquiète pas sur le long terme.
Attendez, ça ne m'inquiète pas. Pourquoi ? Je vais vous dire une chose. On nous dit que c'est un emploi fictif. Bon, moi je vais vous dire ce que j'ai vécu personnellement, je l'ai dit. Un jour je voulais inaugurer une opération humanitaire, je téléphone à François Fillon, il me dit, je t'envoie mon assistante. Je ne veux pas de ton assistante. Il me dit, mais c'est ma femme. Ah ben viens, alors d'accord. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc vous voyez que c'était pas...
Vous dites, elle a travaillé en effet.
Mais évidemment.
Elle a travaillé, ça ne va pas lui poser de soucis. Laura Slimani, en quelques mots sur cette affaire.
Moi je trouve que, au-delà de ce qui est illégal et ce qui ne relève pas de ma compétence à juger, je trouve que ce qui ressort de cette affaire, c'est quand même qu'on a une droite qui finalement, passons à fustiger l'assistanat, ou le soi-disant assistanat, veut mettre à mal notre système de sécurité sociale, et en même temps s'accorde des privilèges elle-même ou aux siens, et je pense que c'est extrêmement dangereux pour notre débat démocratique.
On n'a pas vraiment le temps de se relancer. Alors, vous allez faire le débat pendant la pub, parce que là, on a fini. Désolé, messieurs, dames. Laura Slimani, conseillère municipale et présidente des Jeunes Socialistes Européens, porte-parole de Benoît Hamon. Alexandre Laurent, ancien président du syndicat étudiant Lafage et co-président du comité de soutien de Manuel Valls, ainsi que Bernard Debré, député des Républicains de Paris, membre de l'équipe de François Fillon, étaient nos invités ce matin pour débattre.